On l'appelle la cinquième Suisse, la communauté des Suisses de l'étranger avec plus de 760 000 membres. Elle serait le troisième canton en termes de démographie, juste derrière Zurich et Berne, mais avant le canton de Vaud. L'organisation des Suisses de l'étranger fêtait ses 100 ans cette année avec des festivités qui se sont déroulées ce week-end à Berne. Notre invité ce matin est le vice-président de cette organisation des Suisses de l'étranger, Filippo Lombardi, conseiller aux États PDCT sinois, chef de groupe aux Chambres fédérales. Bonjour Filippo Lombardi.
Bonjour la Romandie.
Merci beaucoup d'être avec nous en duplex de notre studio de Lugano. On va parler des Suisses de l'étranger évidemment, mais pas seulement, un peu de la Suisse tout court. 100 ans, on va dire que c'est un bel âge, un siècle. La communauté des Suisses de l'étranger qui est en pleine croissance, elle croît même deux fois plus vite que la population suisse. J'ai vu ça, pour quelle raison ?
Mais la mobilité continue d'augmenter, c'est clair. Les Suisses, jeunes ou moins jeunes, vont plus fréquemment à l'étranger. Et c'est un peu une des caractéristiques de cette émigration suisse actuellement, c'est qu'elle est réversible. C'est-à-dire, nous n'avons plus l'image de l'émigré qui est parti en Australie ou en Californie il y a un siècle, et puis il reviendra plus jamais. Nous avons maintenant beaucoup de mobilité. Il y a 30, 35 000 Suisses par année qui partent à l'étranger. Il y en a aussi 20, 25 000 qui reviennent, et c'est bien une des tâches que notre organisation doit affronter, de faciliter cette mobilité, le départ et le retour, parce que les Suisses restent des Suisses, même s'ils passent un certain nombre d'années à l'étranger.
Qu'est-ce qui pousse les Suisses à partir à l'étranger, Filippo Lombardi ?
Mais c'est pour commencer en premier lieu les études, c'est parfois l'amour, c'est le travail, c'est une
dans cet ordre-là.
Alors chacun fera son classement. Non, je pense que l'amour joue effectivement un rôle, mais il a joué un rôle. Je suis payé pour le savoir à l'intérieur de la Suisse, puisque beaucoup de romandes, par exemple, ont marié des Tessinois, dont ma mère. Et ça fait c'est bien la preuve que on peut suivre son cœur ailleurs, que là où on est né, où on a grandi. Mais je crois que la profession est maintenant probablement l'explication la plus diffuse.
Vous êtes le père d'une loi sur les Suisses de l'étranger qui a maintenant 2 ans, qui visait à renforcer les liens entre la Suisse et ses expatriés. Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis 2014 pour les expatriés ?
Alors évidemment, ils ont maintenant une loi cadre. On a dit parfois cette loi n'apportait pas suffisamment de nouveautés. Elle se contentait de réunir dans un seul texte ce qui était éparpillé auparavant dans une trentaine de lois, d'ordonnances et de règlements différents. Bon, déjà ça, je crois que c'était pédagogiquement important, montrer l'importance de cette communauté et puis lui donner un instrument facile. Tout le monde peut prendre cette loi et c'est pratiquement tout ce qu'il doit savoir sur les Suisses de l'étranger, leurs droits, leurs devoirs, leur rapport avec la Confédération. Ce qui est changé, c'est aussi une volonté maintenant clairement affirmée de la part des chambres fédérales de faciliter l'intégration de ces Suisses de l'étranger, notamment au point de vue politique, en facilitant l'exercice du droit de vote à travers le vote électronique. Et ça, on sait bien que c'est un thème douloureux parce que la Confédération voudrait, le Parlement l'a dit très clairement, mais les cantons sont compétents et voilà, ça coince et pour l'instant, on n'a pas avancé comme on voulait. Et puis évidemment, assurer plus de soutien, tirer au clair les conditions cadres de l'assistance consulaire, par exemple, plutôt que de l'assistance en cas de détresse, des assurances sociales, etc. Point très important aussi, l'information. L'information des Suisses de l'étranger à travers 2 instruments notamment, Suisse Info, qui est une collaboration entre la Confédération et la SSR, et puis la Revue Suisse, qui paraît 6 fois par année.
Oui, ce vote électronique qui était suspendu dans de nombreux cantons. On est revenu en arrière. Seuls 50 ans offrent le vote électronique à leurs citoyens, alors qu'ils étaient 13 en 2015. On sait que pour les Suisses de l'étranger, c'est très important aussi. Il y a le vote par correspondance, mais qui offre pas mal de problèmes logistiques. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces Suisses de l'étranger par rapport à ce vote électronique ? Ça va s'arranger ou ça va être pire encore à l'avenir ?
Alors, ça devrait s'arranger, mais évidemment, il y a des problèmes techniques, plus outre la volonté des cantons qui n'est pas la même partout. Genève, on le sait, est à la pointe de ce combat. D'ailleurs, Genève vient d'offrir à l'Organisation des Suisses de l'étranger son système informatique pour soutenir l'élection, la prochaine élection en 2017 du Conseil des Suisses de l'étranger soi-même. Donc, on voit différentes sensibilités. Ce qu'on a essayé, ce que j'ai essayé de mettre dans la loi, et on y a réussi, c'est que la Confédération soutienne les efforts des cantons dans ce domaine avec un financement qui peut aller jusqu'à 40% des coûts de l'introduction du vote électronique. C'est quand même un signal de la part de la Confédération qu'on veut que les cantons avancent.
Le PDC, votre parti, a mis la réalisation de la cyberadministration dans son plan d'action. On l'a entendu tout à l'heure à 7h, la Suisse est carrément à la traîne. Quel est le problème en Suisse au niveau de la cyberadministration? Et on sait que le vote électronique en fait partie. C'est un problème d'argent, c'est un problème de sécurité, c'est la démocratie directe. Où est-ce que ça coince, si je puis dire?
En ce qui concerne le vote électronique, c'était une question de sécurité. C'est la raison pour laquelle la chancellerie fédérale a recommandé au Conseil fédéral, lequel a interdit, ou disons n'a pas autorisé, les cantons dont vous avez parlé à utiliser leur système de vote électronique lors des élections du Conseil national l'octobre dernier. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas garantir absolument la sécurité du secret électoral. Et évidemment, c'est un problème. On sait que l'électeur a droit de voter, mais aussi le droit que son vote soit secret. Maintenant, je me suis demandé moi-même si c'était justifié, si c'était proportionné de priver de ce droit de vote les citoyens de 8 cantons suisses pour une question de sécurité qui était un problème potentiel, mais il n'y avait pas eu de violation et c'était non. Voilà. En plus, en général, en Suisse, je crois qu'on est très prudent. Oui, on est très prudent dans ce genre de choses et c'est pour ça qu'on avance peut-être un petit peu plus lentement. Tout en ayant une infrastructure fantastique. On a un des pays les plus câblés, avec les réseaux les plus performants, qu'ils soient par câble ou par voie hertzienne. Je crois que la digitalisation a fait des pas de géant en Suisse et vraiment, je pense qu'on pourrait aller plus vite.
On pourrait aller plus vite. L'Estonie, par exemple, a mis en place quasiment à 100% un gouvernement cybernétique avec l'intégration de chaque citoyen au travers d'une signature électronique légale. Chaque citoyen peut s'exprimer ainsi en Estonie. Si on y arrive en Estonie, on devrait pouvoir y arriver en Suisse, non?
Absolument. Je crois qu'il y a... Mais il y a un frein. Alors la Suisse, encore une fois, est fédéraliste et beaucoup de choses dépendent des cantons. Et alors évidemment, c'est très joli, c'est un mécanisme auquel nous tenons. C'est pas un conseiller aux États qui va vous dire le contraire, mais parfois ça représente quand même une lenteur supplémentaire.
760 000 Suisses de l'étranger, c'est un poids politique très très important. Des partis cherchent déjà à séduire les Suisses de l'étranger. C'est une éventualité crédible, Filippo Lombardi?
Ben évidemment, ce qui augmente n'est pas seulement le nombre des Suisses de l'étranger, mais surtout le nombre des Suisses de l'étranger enregistrés dans les registres électoraux, parce qu'on n'est pas automatiquement apte à voter en tant que Suisse à l'étranger. Encore faut-il s'être inscrit dans un registre électoral et démontrer donc la volonté de participer à la vie démocratique du pays. Quand j'ai commencé à m'occuper de ces choses, il y avait moins de 100 000 Suisses de l'étranger inscrits pour voter. Il y en a maintenant plus de 140 000, donc c'est pratiquement 50% d'augmentation en une douzaine d'années. Ça montre qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt vient aussi du fait, comme je disais avant, qu'il y a maintenant de plus en plus de Suisses qui partent un certain nombre d'années, mais qui ensuite reviendront, et donc ils veulent rester en contact avec la vie démocratique suisse. Alors évidemment, ça intéresse aussi les partis, oui. Chaque année, au Congrès des Suisses de l'étranger, il y a les stands des différents partis qui se présentent. Je crois qu'on pourrait en faire encore plus. Je suis convaincu que les partis auraient l'intérêt. Là encore, comme il n'y a pas une liste électorale nationale pour aller intéresser les 140 000 électeurs, ça sera fractionné dans tous les cantons. Ce qu'on a eu de bien aux dernières élections fédérales, c'est qu'on a eu quelques listes de Suisses de l'étranger dans certains cantons, dont le Tessin, et on a eu le premier Suisse de l'étranger élu au Conseil national, c'est Monsieur Tim Guldimann, socialiste zurichois, qui est notre ancien ambassadeur à Berlin. Et qui a été élu au Conseil national. C'est un collègue apprécié et je crois que c'est un bon signe.
Donc il faut faire encore plus de marketing politique. Les partis doivent en faire plus vis-à-vis de ces Suisses de l'étranger. Filippo Lombardi, c'est ce que vous nous dites?
Absolument, absolument. Les partis sont appelés, je crois, à se rendre compte que c'est aussi de leur devoir, de leur intérêt évidemment, mais de leur devoir d'associer étroitement cette communauté qui veut rester vivante et qui veut rester suisse.
Tessinois, vous l'êtes évidemment, vous êtes en première ligne sur la question de la migration en Europe, vous êtes également vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Une année après la crise de l'été dernier, qu'est-ce qui a changé pour le continent européen? Il n'y a toujours aucune coordination, Filippo Lombardi?
La coordination, ça se met en place. Maintenant, ce que j'ai constaté, je suis président d'un groupe de travail ad hoc de l'Assemblée parlementaire au SCE qui s'occupe justement de la question de la migration. Alors on se rend compte qu'il y a tout à coup beaucoup de monde qui désire coordonner le travail des autres. Il y a l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe qui n'avait pas fait grand-chose dans ce domaine s'en mêle aussi. L'OSCE évidemment les Nations Unies avec le Haut Commissaire des réfugiés et puis de nombreuses organisations parallèles. Dont la Croix-Rouge suisse. Alors, la Croix-Rouge internationale. Alors, c'est évidemment important qu'on se soit rendu compte, mais on arrive toujours trop tard, c'est le drame de la nature humaine. On s'occupe d'un problème quand il est là, on ne s'occupe pas avant. Et toutes nos lois nationales ou nos accords internationaux en matière de migration étaient réglés sur des cas individuels, étaient réglés sur quelques milliers peut-être de personnes qui pouvaient arriver. Elles n'étaient pas réglées sur le problème de millions de personnes qui se sont mises en marche, notamment à cause des conditions difficiles en Afrique, dans certains pays, mais surtout à cause de la guerre que les Occidentaux eux-mêmes ont d'une telle façon provoquée dans le Moyen-Orient, dans plusieurs pays. Et alors là, ces millions de personnes maintenant font que tous les systèmes sont débordés. L'Union européenne a été débordée, le système Schengen-Dublin a été confronté à des pressions énormes. Il a même été mis hors fonction pendant un certain temps. C'était un très mauvais signal d'ailleurs. Mais voilà, on essaie maintenant de reprendre le contrôle de la situation et je crois que il y a maintenant plus de compréhension de le fait que le problème doit être en partie endigué au départ. Il faut recréer des conditions pour que les migrants puissent, s'ils le désirent, vivre chez eux. C'est quand même, dans la plupart des cas, la priorité numéro un. Deuxièmement, pour que lorsqu'ils affrontent les risques d'un départ, qu'ils puissent le faire dans des conditions qui soient respectueuses des droits de l'homme et sans les drames que nous connaissons. Et tertiaux, ceux qui arrivent dans nos pays pour qu'ils puissent être effectivement intégrés.
Oui, justement, il y a des centaines de migrants qui sont bloqués à Côme, en Italie, après avoir été refoulés à la frontière tessinoise. L'Italie pointe Chiasso du doigt, la Suisse qui ne respecterait pas les conventions de Genève. On en parlait dans l'émission Forum samedi soir. Qu'est-ce que vous répondez aux autorités italiennes? Il y a 400 migrants bloqués depuis un mois à la frontière italo-suisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Qu'est-ce que vous répondez aux Italiens, Filippo Lombardi?
Mais je crois qu'il faut qu'ils soient accueillis dignement dans le pays. Alors c'est le principe de Dublin, n'est-ce pas? Ils sont arrivés dans un état sûr, et ils doivent être accueillis là. Et le but n'étant pas de les faire poursuivre. D'ailleurs, la Suisse n'étant probablement même pas leur destination ultime, puisque beaucoup déclarent vouloir continuer et plus loin. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans beaucoup de cas. Moi, je crois qu'on peut pas pointer du doigt un pays qui simplement se tient aux conventions internationales.
Parce que la Suisse a raison de les bloquer.
Sinon, on n'aurait pas de raison de signer des conventions internationales si on peut pas les appliquer. Maintenant, évidemment, il faut donner de l'assistance à ces personnes, mais vous les faites entrer le jour après, vous en avez 4000.
Bon, alors ça c'est la réalité de la migration, et nous avons aussi la réalité des Tessinois avec les frontaliers. Ça c'est dans la presse, Filippo Lombardi. Nous avons un autocollant pour montrer combien de Tessinois, Sandra Zimmerli, ou à l'opposé combien d'Italiens on emploie. C'est un procédé de certains commerces tessinois qui refait surface.
Oui, c'est le temps qui revient sur ce qu'il appelle un autocollant anti-frontalier que la commune de Claro a introduit en février 2015. Lorsque le sticker est apparu, on en a fait tout un foin, certains criant au racisme anti-italien, témoigne ce patron d'une boulangerie, avant d'ajouter « Pourtant, la majorité de mes clients ont approuvé mon choix, ce n'est pas de la xénophobie, moi aussi, j'en emploie un étranger au bénéfice d'un permis B. » Et de conclure, je voulais simplement rendre visible le fait que nous faisons travailler des gens qui habitent et payent leurs impôts au Tessin. Depuis, Claro n'est plus seul, Monteggio a fait de même, Le Zone y songe aussi, en attendant que le gouvernement cantonal, qui tarde un peu, se prononce sur une motion UDC et PS qui demande un tel autocollant dans tout le canton.
LPDC, que dit-il? Vous êtes favorable à ce genre de démarche, Filippo Lombardi?
Écoutez, vous n'avez pas dit à vos auditeurs exactement que ce que dit cet autocollant. Justement, il n'est pas raciste du tout. Il ne dit pas étranger dehors ou bien pas d'Italien ici. Il dit, nous employons du personnel local. C'est ça, hein, nous employons du personnel qui vit et habite et paye ses impôts ici.
Ça fait un peu protectionniste, non? Ça fait un peu démarche visant à l'authenticité, on est bien chez nous, non? Il n'y a pas un peu de ça?
Oui, c'est vrai, mais je crois que ça fait partie un peu aussi de la nature humaine. Alors moi je l'ai permis, moi j'ai une entreprise, j'emploie beaucoup de personnel local et j'ai pas mis ce sticker, je ne le mettrai pas sur la porte de mon entreprise. Mais je peux comprendre que beaucoup de gens au Tessin sont confrontés effectivement à une pression énorme, parce que la pression au Tessin est probablement supérieure même qu'à Genève en pourcentage de la population, en tout cas dans les zones du Mendrisiotto et du Sotto Ceneri. Ce qui n'est pas le cas de Claro d'ailleurs, qui se trouve dans le Sopra Ceneri, c'est ça qui est curieux. Mais il faut comprendre cette pression. Un emploi sur deux au Tessin est occupé par des étrangers. Ça, et dans certains cas, des Tessinois ne trouvent évidemment pas d'emploi. Ça fait des problèmes psychologique, et tant qu'on ne tombe pas dans le racisme, mais on dit par exemple, je vis chez moi, j'achète chez moi, j'emploie des gens d'ici, je trouve que c'est des choses qu'on peut communiquer sans être accusé de racisme.
Comment Doris Leuthard place ses hommes au cœur du pouvoir, c'est à lire dans la presse romande, Sandra Zimmerli.
Même qu'elle s'épanouit plus que jamais, elle sait que la fin approche, note 24 heures et la Tribune de Genève, qui parle de fin 2017, autrement dit à la fin de son année présidentielle. On a En attendant, la magistrate PDC creuse son sillon pour exercer une influence au-delà de son règne. Comment ? En multipliant les nominations de hauts fonctionnaires dans l'administration fédérale, comme Walter Turner, le chancelier, ou encore Jürg Rüttlisberger, directeur de l'Office fédéral des routes. Sûr aussi que Doris Leuthard ne restera pas dans les annales comme celle qui a fait progresser la cause féminine à Berne. Elle n'a nommé aucune femme à la tête d'un office ou d'un département.
Votre conseillère fédérale n'est pas très féministe. Philippe Lombardi, vous êtes d'accord avec cette dernière affirmation? Bon, c'est un fait, hein, il y a peu d'hommes. Peu de femmes, je veux dire, et beaucoup d'hommes.
Il y a peu de femmes. Bon, je sais que, par exemple, lorsqu'il s'est agi de nommer le chancelier de la Confédération, il y avait des candidatures femmes et des candidatures masculines. C'est pas Doris Leuthard qui a choisi le chancelier de la Confédération, c'est quand même le Parlement. Et donc.
Oui, dans son département, c'est a priori elle qui choisit.
Dans son département, c'est elle qui choisit. D'ailleurs, je comprends pas. Alors, vous avez cité un nom qui me, ça me fait sourire. Vous avez cité le nom du directeur de l'Office des routes. Ben, l'ancien étant parti à la retraite, je crois qu'il était assez normal qu'elle nomme un successeur. Je crois pas qu'on aurait l'habitude de laisser les offices fédéraux dépourvus de directeurs jusqu'au départ du conseiller fédéral en charge de ce dossier. Franchement, je pense que c'est assez normal de nommer les successeurs des directeurs qui partent.
Mais elle n'est pas féministe, elle devrait l'être plus, Madame Leuthard, selon vous ?
Écoutez, moi je crois que ce débat est un peu dépassé. Alors je suis arrivé au Parlement, et puis on a eu des années, où on a eu une majorité de femmes au Conseil fédéral, 4 sur 7, et je me rappelle qu'en cette année, on se demandait, en souriant entre parlementaires, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire une clause de protection des hommes. On n'a pas dû le faire, la proportion est redescendue, mais je n'ai plus l'impression que on voit le problème de la même façon. On le voyait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait vraiment un besoin de casser un tabou, un mur, de mettre des femmes au gouvernement. Elles ont été présidentes des deux chambres. D'ailleurs, on a eu pas mal de femmes présidentes. On a une actuellement, présidente du Conseil national. D'accord. Et donc, je crois que ce tabou a été cassé. Maintenant, la société va trouver son équilibre. C'est au fait encore une tâche souvent des partis, plus que des membres du gouvernement, de préparer des personnes qui puissent assumer des tâches politiques.
D'accord, la balle est dans le camp des partis. Voilà une question qui vous intéresse comme politique, mais aussi comme président de médias, Télé Ticino, vous l'êtes. La SSR diffuse moins de contenu politique, Esther Coco, que les chaînes allemandes, ARD et ZDF en tête.
Oui, c'est le résultat d'une étude publiée en une de l'Allgäuer Zeitung ce matin. Les premières chaînes de télévision de la SSR proposent moins de sujets sur la politique nationale et internationale que les chaînes publiques allemandes SRF et ARD. Des chercheurs de l'Université de Berlin ont comptabilisé sur une semaine 4,5% de politique sur RTS1, près de 9% sur la télévision alémanique et presque 11% sur la télévision tessinoise, bien moins que les contenus politiques de l'allemande ZDF et ARD. Les auteurs de l'étude expliquent ce résultat par la volonté de la SSR de diffuser des contenus plus prometteurs sur le plan économique dans un marché plus petit. La SSR conteste, la différence s'explique avant tout par le manque de moyens. Elle conteste aussi la méthode. Les chercheurs ne tiennent pas compte des radios et des deuxièmes chaînes de télévision et la période d'étude est trop courte. Reste que ces conclusions tombent mal au moment où de nombreux élus de droite veulent restreindre la marge de manœuvre du service public.
Philippe Lombardi, un commentaire sur ce fait-là. La SSR diffuse moins de politique que les Allemandes, par exemple.
Oh, le chiffre dans cette évidence me surprend et me déçoit un petit peu. Bon, je constate que la Suisse italienne s'en tire un peu mieux, et disons la SSR de Suisse italienne fait un peu plus. Mais la réponse de la réponse comme quoi ce serait pour des raisons économiques, je la comprends pas du tout. S'il y a une chose qui n'est pas trop chère, c'est bien le débat politique pour des chaînes de télévision. C'est vrai que c'est pas toujours très sexy, mais les Allemands savent le faire. Je regarde un peu les chaînes allemandes, évidemment, et je vois qu'ils en font beaucoup sous forme de débats, de discussions le soir, de talk show avec conduite par quelques personnes très très intéressantes qui a souvent des politiciens et des thèmes politiques dans l'émission. Et je trouve que ça serait possible de le faire sans grande
sans perdre
des taux d'audience.
Oui, Arena existe depuis longtemps. Il y a eu d'autres émissions, enfin on sait faire ça, la SSR.
Alors, oui, j'ai pas. Alors, ouais. Personnellement, je suis surtout surpris par le chiffre. Ouais. Parce que je n'avais pas cette impression, cette perception. Maintenant, dit comme ça, si je réfléchis un peu, c'est probablement ça. Les Allemands comptent probablement plus leur talk show que nous ne le faisons.
Merci beaucoup, Filippo Lombardi. Vous êtes aussi homme de médias, on l'a dit, Teleticino. Merci d'avoir été notre invité en direct de Lugano. Excellente journée à vous.
À toute la Romandie.
Merci.